Radio Libertaire, voilà, à nouveau, Radio Libertaire, donc j'ai un retour sur le casque, donc ça va être difficile, je vais essayer de faire ça sans casque, donc en espérant que vous m'entendrez bien, puisque encore une fois, bon, c'est un problème... difficile, technique, donc on a du mal à pouvoir faire quelque chose. Mais encore, c'est pour ça, alors je vous le dis, donc ce matin, vous êtes sur Radio Libertaire, c'est l'émission Chronique Hebdo, de 10h à midi, et nous recevrons, à partir de 11h, Nicolas Éprendre, pour son film... La passion du monde, la passion du monde, un film sur Élisée Reclus. Alors, à partir d'11h, hein, donc à partir d'11h, on discutera avec le réalisateur de ce film. Et puis, on verra si la technique s'est améliorée. Alors, pour ça, ce que je vous dis, hein, la possibilité, c'est de prendre votre carte de soutien Radio Libertaire, et puis aussi, vous savez, la souscription. Vous pouvez aussi envoyer une petite somme d'argent, tout du moins cette petite somme d'argent peut être prise sur un compte si vous en avez encore un, si vous n'êtes pas complètement dépouillé, et donc pour aider les amis de Radio Libertaire, pour aider la radio justement à améliorer ses possibilités techniques, hein, puisque là encore ce matin ce décalage par rapport à ce que je reçois, à ce que je l'émission et la réception, c'est pas forcément quelque chose de formidable pour faire une émission de radio. Alors, mais c'est comme ça, hein, puisque je vous parlerai ce matin évidemment de tous ceux qui sont en face, tous ceux qu'ont le pognon, qui l'ont piqué au plus grand nombre, puisqu'on voit de plus en plus de gens évidemment démunis, hein, de gens qui sont dans la rue, de gens qui n'ont plus de quoi se loger évidemment, mais surtout de quoi manger. Hein, et là encore... eh bien, la situation ne fait qu'empirer. À ce sujet, ben, je vous annonce quand même que dans cette émission, la semaine prochaine, nous recevrons, alors certains diraient une icône ou un mythe de la chanson française, mais bien plus que ça, c'est bien pour ça que nous l'invitons dans cette émission de Chronique Hebdo. Eh bien, Leni Escudero, au-delà de « Pour une amourette », sa première chanson, eh bien, d'autres chansons que sur 40 ans ou 45 ou 50 ans de sa vie, eh bien, et même plus, Leni Escudero viendra nous dire sa colère sur ce monde de merde, sur ce monde inacceptable, sur ce monde indigne, sa colère et puis évidemment son indignation, sa révolte. Ça, c'était simplement pour vous dire comme information, il y a tout juste une vingtaine d'années, donc où Leni Escudero avait été invité sur un plateau télé provincial, et là, par rapport à évidemment les potiches qui étaient autour de lui, les zombies, les morts vivants, mais et puis aussi l'encravaté questionneur de bien dans sa graisse, bien dans sa peau, de l'arbin du système médiatique, de l'arbin du système capitaliste, et bien lui poser les questions, et Leni Escudero et bien avait exprimé sur ce plateau de télévision sa révolte. Alors donc là, ça continue, sinon je peux en témoigner. Il y a quelques semaines encore, et bien on verra donc la semaine prochaine avec lui, à partir aussi d'un ouvrage qu'il a intitulé, qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle « La vie n'a pas commencé », qui a été publié au Cherche Midi. Alors ça, c'est pour quelques annonces concernant l'émission Chronique Hebdo. Alors je voulais aussi vous préciser que si vous voulez des informations en particulier sur l'émission, plus sur l'émission Chronique Hebdo, eh bien vous pouvez aller sur le blog de Chronique Hebdo, hein, moteur de recherche, vous tapez Chronique Hebdo, vous arriverez sur le blog et vous verrez, il est en couleur, c'est en couleur comme certains disaient, et vous verrez une illustration des propos, vous savez, de la semaine dernière, ce qu'on avait exprimé sur la question du nucléaire, question évidemment primordiale dans le système capitaliste et en particulier aussi question essentielle de la société française. Eh bien, là, vous verrez, on avait signalé les moyens de réparer les centrales nucléaires plus sérieusement ce qu'il nous disait donc en particulier. Les fameux ingénieurs, ceux qui sont passés par Polytechnique et par l'école des mines, nous parlaient de la rustine, hein, rustine et rintintin, comme j'ai dit, pour réparer les centrales nucléaires. C'est vrai que pour ce qui concerne le vélo, vous savez, le vélo professionnel, hein, le vélo des dopés, de la petite reine, mais pas le vélo, évidemment, que tout le monde pourrait pratiquer. Hein, vous savez bien, en France, c'est un petit peu déchoir que foutre son cul sur une selle de vélo. Eh bien, là, vous verrez comment, à la pointe de la technologie, eh bien, on essaie de réparer et de prévoir, hein, puisqu'on prévoit, vous le savez, les futurs accidents nucléaires. Et là, c'est une illustration, eh bien, de Fred Maurice. Fred Maurice qui illustre régulièrement les émissions de Chronique Hebdo. Vous verrez aussi l'agenda donc qui annonçait l'émission, l'invité de ce jour, Nicolas Eprendre, hein, pour son film, je vous le rappelle, à les auditeurs qui viendraient d'arriver sur Radio Libertaire et dans l'émission Chronique Hebdo, eh bien, à partir de 11h pour son film La Passion du Monde et sur Élisée Reclus, et dedans une illustration, une très belle photo, on voit Élisée Reclus avec un livre. On raconte, il n'a pas une tablette, hein. il a pas un smartphone, enfin bon, ça c'est une autre histoire pour le numérique. Le numérique tel qu'il consomme et qui voudrait évidemment nous faire croire que c'est une révolution, comme disait l'autre, le job, c'est une révolution verte, une grande, c'est une nouvelle révolution. Donc là c'est un livre, et vous savez que les livres résistent, les livres c'est la meilleure chose pour résister. Et donc vous verrez cette magnifique photo d'Élisée Reclus, et puis l'annonce, hein, aussi, eh bien, je vous le disais tout de suite, de Lénis Scudero pour la semaine prochaine, avec la couverture de son livre Ma vie n'a pas commencé. Alors, eh bien, on va commencer l'émission, hein. Je vais revérifier si peut-être que ça s'est amélioré. Alors, on va voir ça. Et non, ça s'est pas amélioré, c'est encore un coup. Bon, je sais pas si c'est. On en parlera de la NSA ce matin sur Radio Libertaire. J'espère que vous m'entendez bien. Vous pourrez me le dire tout à l'heure, en tout cas pour. Le numéro de téléphone de l'émission, c'est le 01 43 71 89 40, et c'est aussi le téléphone, vous en doutez bien, de Radio Libertaire. Alors, je vous avais dit la semaine dernière, je voulais vous parler du hors-série, mais j'avais pas eu le temps. C'était un canular en particulier, donc un hors-série concernant l'art, et le titre exact. Libre comme l'art, hein, avec en couverture une reproduction, je pense que c'est Banksy, oui, puisqu'il y a écrit dessus Banksy, ça doit être lui, donc le fameux Banksy. Et puis je vous avais dit à l'intérieur, je vous recommande beaucoup d'articles, hein, en particulier un sur Vallotton, un artiste solitaire, celui-là, la dernière exposition au Grand Palais, évidemment, on a gommé totalement, évidemment, la partie qu'il ne fallait pas voir, la partie anarchiste de Vallotton, en particulier de ses illustrations dans plusieurs revues, comme vous savez, les revues qui fleurissaient, extrêmement importantes, des revues sociales, politique, satirique aussi, donc à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, comme le cri de Paris. Alors, ça c'est pour la partie Vallotton, ben, il y en a d'autres, hein, dedans, je vous laisse le découvrir. La subversion, on évoque ça pour réveiller les consciences et détruire la bêtise, c'est ce qu'on nous dit. Alors, il y a du travail dans l'éditorial de ce hors-série, hein, et rappeler que l'art est une arme, enfin en tout cas un moyen, et la fin ne justifie pas les moyens, mais en ce sens, en tant qu'il nous émancipe et nous rend libre. Alors, on peut le souhaiter à beaucoup de personnes, et en particulier, c'est pas aux auditeurs de Radio Libertaire, pour l'émancipation et pour le fait d'être livre libre, mais c'est quand même avec une petite partie, un petit bémol, je vous le disais, en rappelant tout à l'heure cet entretien de Lenny Escudero, il disait qui peut se sentir libre dans cette société, hein, puisque simplement en exprimant la fameuse formule, donc la liberté, vous savez de qui c'est, hein, je vous le dis pas, je vous le rappelle pas, mais la liberté des autres, développe ou étend la mienne à l'infini. Alors quand tous les autres sont un peu en prison, quand tous les autres sont un peu enfermés mentalement, quand tous les autres sont assoupis, anesthésiés, est-ce que je peux me sentir libre? C'est toute la question, et je ne pense pas. C'est bien pour ça qu'à partir de la... Bon, je vais vous en parler ce matin. Donc, la résistance, mais la révolte vient de plus en plus indispensable, sinon la révolution. On va en parler aussi. Peut-être que sur cette antenne, vous allez me dire, c'est quelque chose qui se répète relativement souvent, vous vous en doutez bien. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que de temps en temps... C'est que de temps en temps, là aussi un incident technique dans la gorge, décidément ce matin, et que de temps en temps, sur des radios officielles, ça échappe aussi sur des radios officielles, sur France Culture, c'était mardi dernier sur France Culture, ça s'appelle La Grande Table, hein, c'est toujours, vous savez aussi, ils ont un podcast, eh bien vous pouvez aller écouter, c'est Eric Hazan qui était invité, alors on entendait des choses à 13h sur France Culture, on entendait un peu, vous savez bien, l'éditeur Eric Hazan qui est venu dans cette émission, hein, avec à l'époque à propos d'un livre l'antisémitisme, hein, c'est ça partout en France, hein, puisque c'était aussi rappelé qu'il y a quelques années, quand on voulait disqualifier une personne ou voulait lui lancer, et ça continue quand même un peu encore, l'opprobre, l'arme, comme je dis, de destruction massive était utilisée pour lui dire, tiens, un antisémite, et ferme ta gueule, hein, par rapport à ça. Donc c'est ce qui avait été essayé avec, vous savez, notre ami Ciné, hein, qui avait été viré par Monsieur Val du journal. À l'époque, il sévissait sur Charlie Hebdo, donc donc il avait éjecté Ciné. Donc mais Ciné avait rebondi, vous le savez, avec le fameux Ciné Hebdo, et puis après ce qu'il est devenu, le Ciné mensuel, qui a aussi des difficultés, comme toute la presse qui résiste, toute la presse qui veut pas marcher, les quelques journaux qui ne veulent pas s'abaisser devant les fourches caudines du capitalisme. Alors, je vous le disais, donc Eric Hazan était sur France Culture, et il a parlé de ce fameux ouvrage, L'insurrection qui vient, et puis Prémisse aussi à la Révolution, un autre ouvrage qui vient de sortir, Prémisse révolutionnaire, et là aussi... Et ils avaient l'air particulièrement surpris, ces journalistes de France Culture, d'entendre de tels propos, où simplement Eric Hazan rappelait que le salariat, eh bien, il fallait l'abolir. C'était une nécessité. Il leur disait que finalement, les choses sont plus faciles que ça. Quand on veut faire arrêter la machine, il fait que propositions. J'ai déjà parlé de ce livre il y a quelques semaines, dans cette émission, en commentant quelques articles de Ciné mensuel. Donc ce livre écrit par Eric Hazan et Camus. Et quand ils lui ont demandé, mais c'est qui ce Camus? Ce Camus, c'est quelqu'un qui a un pseudo, hein. C'est quelqu'un qui, Eric Hazan disait, qui est bien plus jeune que moi, hein. C'est quelqu'un qui est un peu aussi philosophe. Alors on lui a demandé, et la profession, il leur a dit, oui, évidemment, si vous avez envie d'étiqueter ou de quelqu'un, il faut évidemment qu'il sorte sa carte, hein, sa carte de professionnel. Et là, ils étaient, par rapport à une sorte de vocabulaire, un petit peu démunis par rapport à ce que leur disait Eric Hazan, qu'il disait suffisait finalement, la révolution peut-être, hein, on peut suggérer qu'elle pourrait arriver avec d'autres formes que celles des barricades, comme les insurrections qu'il y a eu au 19e siècle et au 20e siècle, hein, puisque comme rappelait Eric Hazan, comme on se sentait bien, l'air était respirable en mai 68, vous vous rendez compte, et ça pourrait recommencer. Il suffirait, c'est une proposition, eh bien, d'autres types de barricades, et la réflexion, eh bien, c'était ce qu'on va essayer de faire. Il suffirait que les flux, vous savez bien, de la machine, les autoroutes ne fonctionnent plus, on ne peut plus livrer les camions qui se déplacent comme pour un pot de yaourt qui font des milliers de kilomètres, eh bien ça ne pourrait plus marcher. Il suffirait qu'Internet tombe en panne, il suffirait que les gens restent à la maison, et d'un seul coup, évidemment, le pouvoir flop, ça serait fini, terminé, il s'effondrerait aussi facilement que ça. Alors la question qu'évoquait Eric Hazan, je vous le rappelle, sur France Culture, ils ont dû avoir après des malaises auditifs, je ne sais pas, eh bien c'était de dire, oui, le premier jour c'est formidable, le deuxième jour, et après, peut-être après, et après, après, là, les premiers jours d'insurrection. Alors donc, il fait aussi quelques propositions, il rappelle le fameux village ou la commune en Andalousie, qui fonctionne complètement autrement depuis 20-25 ans, avec aussi une forme de gratuité, et évidemment de faire différemment dans le système capitaliste, vous vous en doutez, c'est quelque chose de particulièrement difficile, mais quelquefois donc ça peut marcher. Alors ces pistes-là, sur la révolution, évoquées par Eric Hazan, et puis je voulais vous dire aussi, aussi c'est sur la radio officielle, alors de temps en temps, eh bien notre ami Hélène Maurice est passée aussi, donc là aussi c'est podcasté si vous voulez l'écouter, sur France Culture. C'est le samedi à partir de 23h, sur France Culture. C'est avec Hélène Azéra, que les anarchistes connaissent bien, puisqu'elle a écrit des articles aussi, il y a quelques années dans le Libertaire, ou dans le Monde Libertaire plutôt. Et puis Hélène Azéra propose chaque semaine, eh bien, une heure de chanson boom, ça s'appelle chanson boom, et elle a la manière et la façon de poser des questions assez pertinentes, évidemment, assez intéressantes, et qui changent radicalement de ce qu'on peut entendre, évidemment, sur l'ensemble des autres médias. Alors allez écouter aussi Hélène Maurice, qui a débuté, enfin on dirait qu'elle est venue plusieurs fois sur Radio Libertaire, en particulier dans des émissions comme celle que vous allez pouvoir écouter tout à l'heure à partir de midi jusqu'à 14h de Rimes et de Lot. Eh bien, je vous conseille, et aussi si vous le souhaitez, allez sur le blog. Vous verrez des tas de choses extraordinaires sur le blog. Et de liens, comme on appelle ça, des liens amicaux, des liens qui libèrent aussi, et bien sur son blog, donc blog de Hélène Maurice sur le net, comme on dit. Voilà, alors je voulais vous dire ça, donc il y a un peu de concurrence. France Culture fait de la concurrence à Radio Libertaire avec d'autres moyens, vous en doutez bien. Alors je vous parlais donc de ce hors-série, je vous avais dit le canular, le canular évidemment un art libertaire, je vous lis quelques lignes. Il y a comme un cousinage naturel, une affinité intrinsèque entre l'art lui-même et la pensée libertaire, la nécessaire libération de l'imagination, l'indispensable dépassement, voire la destruction des carcans normatifs et intellectuels, la volonté de produire un discours qui conduirait le récepteur à un questionnement émancipateur en bouleversant sa perception habituelle du monde, sa perception du monde telle qu'on lui a bourré, abîmé la tête. Bref, tout ce qui s'impose à la pratique artistique semble par essence profondément libertaire. Alors, là aussi, on revient dans le canular, évidemment, sur les péripéties, les actions subversives, crème et châtiment, comme il dit, de Noël Godin, qui a évidemment entarté tous les bouffons, parce qu'il aurait pas assez de crème, mais et ça coûterait trop cher. Et donc, certains bouffons qu'il a entartés, parce qu'on peut voir, on fait des séquences, si vous voulez aussi, aller voir sur le net, encore une fois, par rapport à Monsieur Bernard-Henri Lévy, Hein, le milliardaire, évidemment, que personne ne nous envie, et qui fait un petit peu la pluie et le beau temps, enfin, relativement, il fait plutôt ni la pluie ni le beau temps, mais qui nous emmerde surtout, et donc qui intervient dans différents journaux, et qui commet, évidemment, des trucs qui ressemblent à des livres. Alors, pourquoi je vous dis ça? Puisque ce Bernard, ce BHV, comme on l'appelait, et pas ce BHL, vous allez voir pourquoi, eh bien, a été entarté par Godin, et puis la deuxième ou troisième fois, parce que évidemment, quand on aime, on ne compte pas, eh bien, il a eu les honneurs de la tarte plusieurs fois, et on voit une fois, justement, une séquence commentée par Pierre Desproges, pour montrer, où Pierre Desproges insiste sur la suffisance du bouffon et sa méchanceté, hein, puisqu'il voulait terminer ces expressions, Noël Godin, à coups de talons. Hein. Donc voilà, vous savez bien, ce sont des gens, la bourgeoisie en particulier, des gens très gentils, des gens très polissés, mais qui, dans certaines circonstances, évidemment, se montrent particulièrement dangereux, particulièrement violents et particulièrement méchants. Alors ça, on peut le voir. Et donc, dans ce hors-série du Monde Libertaire, eh bien, on nous rappelle la fameuse histoire de Jean-Baptiste Botulle, un personnage évidemment totalement fictif, philosophe créé par Frédéric Pagès du Canard Enchaîné. Et là, l'histoire, la petite histoire, eh bien, c'est que ce pseudo, enfin, je ne sais pas comment le dénommer, bouffon qui se dit philosophe, eh bien, l'avait cité, hein, voilà, La guerre en philosophie, paru quelques 15 ans plus tard, et cité donc Jean-Baptiste Botulle, évidemment, le grotesque ne tue pas, puisque c'était un personnage totalement fictif, et donc Monsieur BHV, eh bien, le nommait pour argumenter, enfin, sa thèse ou sa démonstration, et on s'en fout de laquelle, mais simplement, je vais être pas trop long ce matin par rapport à ce canular, ça va être un canular, eh bien, ce BHV, écoutez bien, et là, c'est pour de vrai, hein, eh bien, le BHV, écoutez ce que l'on dit. Le grand magasin emblématique repère des bricolos créatifs, des Parisiens rive gauche, des branchés de l'hôtel de ville, enfin toute la bobocaille, un bazar version luxe où l'on peut trouver de tout. Eh bien ça, c'est la vraie présentation sur Internet du BHV Marais. Ça, je dis ça pour les auditeurs de province, hein, qui doivent bien regretter de ne pas avoir ça chez eux, hein, à Paris, la capitale internationale de la planète. Et donc, et c'est pour de vrai. Alors, c'est pas un canular, mais c'est une publicité, évidemment, que fait le BHV sur le Internet. Alors, la publicité, vous savez qu'il n'y en a pas sur Radio Libertaire, hein, c'est la voix, comme on dit, sans Dieu, sans maître et sans contre-maître et sans publicité. Comme je dis, la publicité, c'est la chiasse du capitalisme. Et on verra tout à l'heure, eh ben, peut-être pour illustrer un peu cette forme canulardesque, une chanson de Sourigue, hein, je vous l'annonce tout de suite, qui s'appelle « Dîner de cons ». Alors, on verra ça tout à l'heure, et donc, tout l'article est assez long, hein, sur le canular, et puis je reviendrai rapidement. Il y a plusieurs pages, hein, Banksy, je vous en ai parlé les semaines précédentes, mais revenir aussi sur les fameux yes men. Vous savez, les yes men, c'est-à-dire, ils se faisaient passer pour des journalistes, hein. Et ils étaient plus vrais que les journalistes, évidemment, plus vrais. Le faux dépasse le vrai, vous le savez bien, dans cette société d'imposture. Et donc, le canular pour ébranler les fondements capitalistes de la société en s'attaquant à ses structures institutionnelles, qu'elles soient étatiques ou économique. Et là, c'est ce que faisaient les Yes Men. Et souvenons-nous, ils avaient interviewé, il y a eu un film, hein, sur eux, Balkany, hein, voilà, vous le savez, les démêlés de celui des Hauts-de-Seine, là, ce que je les appelais les, ceux des Hauts-de-Seine, enfin, pour revenir sur les tontons franciliens, hein, voilà, les tontons flingueurs franciliens, Donc, Monsieur Balkany, enfin toute la clique, je vais pas citer des noms, bon, on peut connaître hein, par rapport à ça. Alors avec sa dulcinée, et donc ils ont plusieurs, ce sont des SDF, hein, puisqu'il intervenait sur les SDF sans domicile fixe. Il a moulin quelque part du côté de Giverny. Enfin, il a un hôtel de ville à lui tout seul où il habite à Levallois-Perret. Il a aussi dans les belles îles des Antilles. Mais tout ça, ça passe pour les paradis fiscaux. Enfin, c'est un, évidemment un arrangement entre amis. Et la Balkany qui avait été interviewée, ça doit aussi se trouver encore sur le net, hein, eh bien, expliquait à ces faux journalistes états-uniens qu'il n'y a pas de misère en France. C'était ça à l'époque, hein. Juste quelques marginaux indécrottables ayant choisi d'être SDF. Alors voilà un peu ce que peut faire évidemment cette forme de canular. Alors il y en a bien d'autres. Alors bah je vous conseille hein, d'aller consulter le hors-série du Monde libertaire, hein, celui-là, et numéro 52, novembre-décembre, dans les bons kiosques, hein, vous pouvez le trouver. Évidemment, les maisons de la presse et aussi, à Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Alors, je vous le rappelle, hein, c'est la librairie du Monde libertaire et c'est aussi le siège, comme on dit, de Radio Libertaire, si vous voulez nous écrire. Hein, c'est à 145 rue Amelot, Paris 11e. Voilà, alors je vais vous parler, je vous le rappelle, à partir de 11h, eh bien, nous aurons Nicolas dans le studio de Radio Libertaire, l'invité, si tout va bien, Nicolas est prendre, hein, je dis, pas bloqué évidemment par quelquefois les difficultés de circulation qui ne circulent plus, mais normalement donc réalisateur de ce film La Passion du Monde sur Élisée Reclus, et donc ça c'est à partir de 11h, et après je vais vous parler quelques parties musicales ou une chanson de Sourigue, et bien je vais vous parler du Monde libertaire de ce jour, hein, je vais vous parler du Monde libertaire de ce jour, et puis aussi je vais essayer quelques articles au travers des journaux, en particulier, vous savez, sur les deux Carlos, là, les histoires de chez Renault, de chez Peugeot, de Monsieur Varin avec ses 23 millions d'euros. Alors aussi, et puis d'un oligarque russe hein, qui va être accueilli aujourd'hui, évidemment, par ce beau pays de la liberté. Eh bien, l'oligarque russe absolument épouvantable. Je vais vous lire un petit peu qui a été décoré, évidemment, par l'ancien locataire de l'Élysée. Eh bien ça, c'est tout de suite après cette chanson ou quelques parties musicales. Si les auditeurs veulent nous appeler, c'est le 01 43 71 89 40.
Il y avait la mère de Denis, il y avait le père Dodu, il y avait toute la famille. Il y avait tante Marie, le père Lustucru et sa nouille de fille. Il y avait papy Brossard, il y avait mamie Nova et il y avait l'oncle Benz. Pierre et Marie Brizard, la mère Teresa et la Mercedes Benz. Accoudé au comptoir, il y avait Johnny Walker et son petit baby. Il y avait Popol Ricard qui sirotait pépère sa couche d'eau jaunie. Il y avait les McDonald's, il y avait les McIntosh et il y avait les McCain. Et tout le clan Campbell qui se sifflait des scotch, c'est la mienne à la tienne. Dîner de conche et Seguela, tout le gratin était là. La bonne farce qui est le dindon, qui est le con. Il y avait l'abbé Souris avec Daniel Jouvence. Il y avait le révérend qui causait lingerie avec son éminence. Il y avait Capitaine Igloo, il y avait la mère Poulard, les frères Michelin qui regonflaient le mou, un gros malabar qu'avait plus goût à rien. Il y avait le petit Lu, le petit Marseillais et le petit bateau. Il y avait le petit Filou, le petit écolier, le petit Pépito. Petit Robert, il y avait le petit Gervais, il y avait le petit Prince. Autour du géant vert venu leur présenter sa nana ultra mince.
dîner de con chez Seguela. Tout le gratin était là, la bonne farce qui est le dindon. Qui est le con? Il y avait Coco Chanel, il y avait Coco Chaumont, il y avait Coca-Cola, évidemment. Il y avait Caca Charel, il y avait un monde fou, il y avait même le chat. Il y avait même Saint-Marc, il y avait le père Savon, et il y avait Monsieur Propre. W.C. Canard, la famille Johnson, et encore plein d'autres. Quand arriva Manix dans sa décapotable et son grand réservoir, il y a Magnum qui a dit on devrait tous se mettre dans le petit boudoir. J'ai vidé mon ballon, j'ai levé mon séant et j'en ai profité pour montrer les talons au maître de séant qui m'avait invité. Dîner de con chez Seguela, tout le gratin était là, la bonne farce qui est le dindon.
Sonner.
Qui est le con? Qui est le con? Qui est le con? Qui est le con? Boutumba.
Radio Libertaire. Radio Libertaire. Eh bien, c'est toujours pareil, hein, voilà. Donc, je vous dis ce qui se passe aux auditeurs. Apparemment, je pense qu'ils nous entendent bien, puisque j'ai eu quelques appels hein, de assez intéressants. Je vous en parlais, justement. Mais avoir une possibilité d'écouter, puisque l'on entretient tout à l'heure, d'avoir le son dans le casque. Et là, on a le retour deux ou trois secondes après, donc c'est absolument insupportable, mais c'est comme ça. Alors, je voulais donc deux auditeurs qui me disaient, un auditeur des moyens peut-être, il disait tout simplement de rester à la maison, hein, de rester chez soi, enfin ceux qui ont encore une maison, et de pas se lever, hein, comme on l'a dit souvent, travailleurs de tous les pays, rester couché, hein, ce qui veut pas dire rester à plat ventre, mais rester chez vous. Et là, il serait quand même bien emmerdé, mais évidemment, vous le savez, j'ai dit à cet auditeur, le dressage social, hein, le dressage social quand même est extrêmement fort. Hein, les petits-enfants, faut quand même à 2 ans les habituer. Alors s'il y a la crèche, hein, on les réveille, et s'il y a l'école maternelle à partir de 2 ans, eh bien, on les prépare au boulot, et les 4 jours et demi, ça sera encore mieux. Hein, puis de Monsieur Vincent Payon, évidemment, sous signe évidemment de faire mieux, hein, pour tout le monde, eh bien, là encore une fois, à augmenter la durée et la prolongation de l'école, 5 jours, 6 jours, pourquoi pas la nuit. Enfin, pour le projet éducatif, il n'est pas là, il est de savoir ce qu'on y met dedans. Hein. Qu'est-ce que l'on fait si ce sont des structures, comme on l'a déjà dit, je vais aller assez rapidement, s'appelle l'école capitaliste. Hein. Donc après, on peut l'habiller, dire républicaine, on peut le parler qu'elle est démocrate, qu'elle est de gauche, qu'elle est de droite, qu'elle fait pas de politique, hein. Comme on a entendu sur France Culture, que l'entreprise, puisque une auditrice, Françoise, nous appelait pour nous dire, bon, ce que peut débiter comme connerie France Culture, eh bien là, on entendait dernièrement aussi la même chose, hein. L'entreprise ne fait pas de politique, hein. L'entreprise n'est ni de droite ni de gauche. Alors bon, à partir de ça, évidemment, il y a qu'à tirer la chasse d'eau. Et donc, revenir sur ce thème. Alors je vous le disais ce matin, donc tout à l'heure, assez vite Nicolas, on reviendra peut-être sur ça. Alors je vous parlais de Monde Libertaire de ce jour, Opération Confusion, c'est le numéro 1723 du 28 novembre au 4 décembre, donc c'est aujourd'hui, hein, je vous le rappelle, émission en direct hein, sur Radio Libertaire. Et là encore, donc, dedans, il y a les articles sur Albert Camus, très intéressant. Allez, regardez. Et puis, notre ami Jean-Pierre Tertrais, La décroissance, quoi de neuf. Enfin, toujours passionnant, Jean-Pierre Tertrais, son ouvrage, L'impasse suicidaire du capitalisme. Là aussi, en dernière page de ce Monde Libertaire, c'est du droit de résistance à la révolution permanente, comme je vous parlais au début de cette émission. C'est le vendredi 6 décembre, c'est un rendez-vous à la bibliothèque Larue pour l'Île-de-France, 10 rue Robert Planquette, Paris, c'est le 18e et c'est métro Abbesse ou Blanche. Hein. Donc ce sera Erwan, groupe Louise Michel de la Fédération Anarchiste, conférence ou causerie pour reprendre ce que faisait Libertad au début du 20e siècle. Hein. Alors on en parlera peut-être tout à l'heure avec Nicolas Eprande de Libertad par rapport évidemment à ce que nous disait de Libertad du vote, hein, de la votation et aussi de l'électeur. Alors le Monde Libertaire, eh bien une petite citation de Jean-Paul Sartre. Là je vous rappelle Jean-Paul Sartre, hein, vous connaissez sûrement. Donc dans le dictionnaire Michel Ragon. Sur l'anarchie, qui est sorti il y a quelques années, eh bien Jean-Paul Sartre, il y avait à la fin de sa vie, peut-être, je ne sais pas, lucidité en tout cas, mais il a fait une sorte de mea culpa, enfin je ne sais pas, bas de sa culpa, hein, par rapport à peut-être son soutien, vous le savez, c'est pas une nouvelle, donc des pays totalitaires, en particulier ce beau pays qu'elle appelait l'Union soviétique et qui avait goulagué des millions et des millions de morts, et Jean-Paul Sartre, à la fin de sa vie, disait, ben, j'ai la fibre anarchiste. Et pour ça, reportez-vous donc à ce petit extrait qui a été imprimé dans le dictionnaire de l'anarchie, publié, dont s'était occupé Michel Ragon. Alors là, Jean-Paul Sartre nous dit quelque chose, c'est sur le Monde Libertaire de ce jour, c'est en couverture, c'est écrit tout petit, alors j'ai un petit peu de mal, sans lunettes, j'y arrive. La fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne s'en puisse dire innocent. Hein. Nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne s'en puisse dire innocent. Ben, on est bien d'accord, hein. L'ignorance, évidemment, c'est ça partout qui est développé. Hein. C'est pas moi, hein. Il peut rien. On peut rien changer, on peut rien y faire. Hein. C'est comme ça. Hein. Faut qu'ils se débrouillent, hein, chacun. Nous, on a tellement d'ennuis. Alors, on est arrivé, évidemment, à faire ça, comme on dit, hein, la lutte des places qui aurait remplacé la lutte des classes, à diviser. C'est le système capitaliste. Hein. Séparer, séparer. Et puis aussi, que fassent que les gens se trompent d'adversaires, comme je dis souvent, qu'ils s'en prennent à leurs voisins, qu'ils s'en prennent à leurs amis, qu'ils s'en prennent à certaines personnes de la famille. Hein, c'est peut-être plus facile qu'ils s'en prennent aussi à des gens proches d'eux. Mais évidemment, d'analyser les structures sociales et de voir qu'il faut s'en prendre évidemment à la bourgeoisie, hein, la violence des riches, la violence de la grande bourgeoisie, la violence des grands voleurs, la violence, comme je dis dans cette émission, des grands criminels. C'est des crimes. Contre l'humanité, hein, des millions, des dizaines, des centaines de millions de victimes sur l'ensemble de la planète, ces crimes contre l'humanité, bien évidemment, les écrans, hein, comme on dit, les écrans font écran, et puis ce que l'on peut dire, hein, ce que l'on peut voir, tout ce système de propagande staffel, de système médiatique, là encore, et puis aussi tous ces beuglants de politiciens, non, les chiens, ils sont gentils, non, de politicards, hein, qui sont là encore à la soupe pour avoir des places pour les prochaines municipales, là encore, qui vont sortir faire le trottoir, puisque c'est en ce moment, on est en train d'en parler de la prostitution. Donc, tous ces prostituées d'État, hein, là encore une fois, et qui sont là pour... comme des proxos, le proxénétisme, là encore une fois, faire travailler, hein, là c'est pas avec son sexe, comme dit le travailleur du sexe, mais avec son âme, avec son corps, avec son esprit, hein, d'être absolument docile. Sans ça, évidemment, les forces du désordre vous foutront sur la gueule, seront prêts à vous réprimer. On a trouvé un système, licencions, virons les gens, foutons-les dehors. Et là on voit, eh bien c'était un titre du Canard Enchaîné. Là, c'est en première page aussi de ce mercredi, hein, des pays riches d'enfants pauvres. Pays riches d'enfants pauvres, hein, c'est le Canard Enchaîné qui fait ses titres. Et là, aujourd'hui, là, rien que pour ce pays proche de 3 millions de personnes, de jeunes dans l'indigence. Hein, voilà un peu la situation dans ce pays. Alors, encore une fois, là, les enquêtes qui ont été faites, hein, de 5% des enfants ne font pas 3 repas par jour, comme aurait dit Madame Lagarde, ça va leur faire la santé. Madame Lagarde avait trouvé la parade, vous savez, celle du FMI qui a remplacé le DSK. Elle leur disait, ben moi j'ai, vous avez qu'à mettre un pull, hein, s'il fait froid, vous avez qu'à vous déplacer à bicyclette, hein, si vous n'avez pas de bagnole, et puis faites un repas par jour, ça suffit bien, vous garderez la ligne. Voilà l'abjection. Ben, elle est quand même la présidente directrice du Fonds monétaire international, hein, qui est responsable évidemment de la misère de millions, dizaines de millions de gens sur cette planète. Donc, par rapport à cette souffrance qui ne fait que croître, alors moi, bon, là-dessus, le Canard Enchaîné nous dit que d'autres pays plus capitalistes que nous, peut-être, comme le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et surtout les États-Unis font bien mieux parce qu'ils n'ont pas de système, enfin, d'amortisseurs sociaux. Alors regardez ici, les amortisseurs sociaux, ils sont quand même balèzes. Alors Secours Populaire, Secours Catholique, Apprenti d'Auteuil, enfin, ils nous font, et les Restos du Cœur, comme j'ai parlé des Restos du Cul, hein, pour là aussi qu'il faudra essayer de les instituer, ceux-là, mais ça viendra. Et donc, venir en aide, nous dit le Canard Enchaîné, à 35 000 nourrissons. Hein. Alors voilà, donc cette femme m'est montrée dans les médias qui aurait fait le voyage à Berck avec un enfant nourrisson de quelques mois et qu'il l'aurait, on ne sait pas la suite, hein, qu'on a retrouvé mort, noyé. Et là, évidemment, ça fait les gros titres. Mais les 35 000 nourrissons qui n'ont pas becqueté dans ce pays, hein, là, encore une fois. Alors, moi, je dis, l'obscénité, bon, est caractéristique, hein, vous le savez, en permanence... sur les antennes de télévision, et le dernier, De la mousse, de la housse, un spécial avec monsieur Ormesson, absolument débectant, voilà, pourri. C'est ça, hein, voilà, qu'on vous montre sur ces médias, qu'il faudra peut-être un jour se réveiller et peut-être faire quelque chose. L'Entarteur avait fait quelque chose, madame Claire Chazal avait pris aussi, c'était pas une tarte, c'était un gâteau à la merde. Alors peut-être que des choses comme ça un jour vont se passer, parce que comme je vous rappelle le fameux tableau de James Ensor, j'aime bien rappeler ça dans cette émission, hein, donc belge, James Ensor, un magnifique peintre qui avait fait ce tableau Alimentation doctrinaire à la fin du 19e siècle, et on voyait évidemment les puissants, entre guillemets, riches, évêques, militaires, politiciens, hein, qui déféquaient sur la population en leur disant bah, « Vous voulez des droits ? Et bah, voilà ce que l'on vous donne. Hein. » Vous savez, c'est ça, c'est les droits. Les droits n'existent pas, hein. C'est une illusion. Alors, là aussi, j'ai commencé à vous parler du monde libertaire. Et je vais vous lire l'éditorial du Monde Libertaire, et puis peut-être que nous passerons après, eh bien, peut-être ce que je devais développer. Je ne sais pas si j'aurai le temps au cours de cette émission, hein, je vous l'avais dit, sur les deux Carlos, hein, sur Monsieur Varin, des deux Carlos, il y en a quatre Carlos, il y a un chanteur, il y en a un qui est à la prison de Poissy, et puis il y en a un qui est chez Renault, il y en a deux chez Renault. Il y en a, et quel est le plus nuisible des quatre, hein, ou les plus nuisibles des quatre, à savoir, c'est une question, hein, donc vous pouvez envoyer la réponse au 145 rue Amelot à l'émission Publico, puisque je vous parlais tout à l'heure de Canular. Voilà l'éditorial du Monde Libertaire de ce jour, le 1723, du 28 novembre au 4 décembre, je vous le lis. La semaine dernière, État et médias nous ont refait le coup de la terreur. Un tireur solitaire se baladait, libre comme l'air, fusil de chasse à la main, dans les rues de la capitale. Les autorités ont sorti le grand jeu. Des centaines de flics mobilisés, patrouillant en voiture, camions, hélicoptères. Mais le tireur solitaire, qui venait de grièvement blesser un assistant photographe, entendre un salarié précaire de la presse, restait introuvable. Et de fait, la flicaille ne servit pas à grand-chose, puisque c'est sur la dénonciation du propriétaire du parking dans lequel le suspect s'était réfugié que l'assassin en puissance, Dixit le Parisien, hein, Dixit le Parisien, le Parisien des Bénés, a pu être appréhendé, arrêté, placé en garde à vue. Le tireur solitaire allait encore faire parler les politiciens et écrire les plumitifs. C'est que le bougre s'appelle Abdelhakim Dekar et qu'il traîne derrière lui un passé confus de militant dit d'ultra-gauche, hein, entre guillemets, pour les uns, anarchiste révolutionnaire, entre guillemets, pour les autres. Arabe et gauchiste, le tireur ne pouvait que titiller les réflexes des idiots de la classe politique et des rédactions putassières de la presse bourgeoise. Dès l'annonce de son nom, Gollnisch n'a pas manqué d'insister sur son origine algérienne, dénonçant un octroi trop facile de la nationalité française. Les journaux, eux, ont abondamment ressorti l'affaire Ray Maupin, je vous le signale, c'était en 1994. À ce sujet, il y a une bande dessinée, hein, plus qu'une bande dessinée, c'est autre chose, qui s'appelle Les damnés de Nanterre, et qui a été publiée et qui a été réalisée par Chantal Montellier, qui était venue plusieurs fois dans cette émission. Donc je vous conseille, hein, si vous voulez voir Les damnés de Nanterre sur cette affaire Ray Maupin, vous pouvez peut-être encore la trouver. Établissement fort maladroitement les liens entre ces deux épisodes de la vie du tireur. De son côté, Bertrand Delanoë, maire de Paris, en a profité pour se féliciter du système de vidéosurveillance installé dans la capitale, rabâchant le discours étatiste selon lequel la sécurité impliquerait nécessairement moins de liberté. Vous entendez ? Moins de liberté, c'est pour votre sécurité. Quant à Abdelhakim Dekar, il ne semble rien avoir d'anarchiste, voire même d'ultra-gauchiste. Hein, et là, faut le souligner, c'est sick, hein, c'est précisé, bien sûr. D'accord, plus paumé qu'autre chose, confus à l'extrême. Il n'est sans doute que le produit d'une société déshumanisée où la confusion est maîtresse et où l'on marginalise avec violence, symbolique comme physique, ceux qui ne rentre pas dans le rang. Voilà, je tenais à le lire, c'est une fois n'est pas coutume, enfin bon, bien sûr, comme on dit. Donc cet éditorial avec lequel je suis absolument d'accord, dans le monde libertaire de ce jour, eh bien oui, comme hein, c'est la société du spectacle, on les a vus, tous les journaleux transformés évidemment en chiens policiers, après le rôle de chien de garde, comment ils se sont évidemment défoulés, et est-ce que l'on pouvait, vous voyez bien que l'information, enfin ce qui n'en est pas une, la désinformation, le spectacle médiatique va très vite puisqu'on en parle quasiment plus. Voilà, alors je voulais vous dire que pour les rendez-vous eh bien publico, c'est samedi prochain à 16h30, 145 rue Amelot, Paris 11e. Projection du film de Jean-Jacques Béril, L'Ordre français, 17 octobre 61, à la librairie du Monde Libertaire. Alors, je vous l'ai dit. Et donc, ce sera, reviendra sur le colonialisme français. Si j'ai plus d'informations, eh bien je vous le dirai à propos de ce film pour vous parler donc des invités. Alors on met quelques parties musicales et puis on essaie d'attendre à partir d'11h, eh bien normalement Nicolas est prendre pour son film La Passion du Monde. Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire, c'est l'émission Chronique Hebdo, j'ai pas beaucoup de temps, je voulais vous parler de CQFD et comme je vous dis, puisque c'est un feuilleton, eh bien on essaiera, et on aura un petit peu de temps peut-être en début de l'émission la semaine prochaine, de vous parler de CQFD. Voilà, 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, émission Chronique Hebdo. Radio Libertaire. Émission Chronique Hebdo. Et bien voilà. Et alors, un petit peu, vous avez eu quand même quelques parties de jazz. Je le signale quand même parce que c'est remarquable, je trouve. Wynton Kelly. Hein, Wynton Kelly avec l'album qui s'appelle Kelly Blue. Un petit peu, et bien écoutez, à partir d'11h, hein, je vous l'avais dit, bah, c'est le cas, c'est fait. Et bien, Nicolas Eprendre est dans le studio de Radio Libertaire. Hein, c'est l'émission Chronique Hebdo. Et que je vous l'avais annoncé au début de cette émission, c'est le réalisateur du film La Passion du Monde, un film sur Élisée Reclus. Alors on va parler ce matin évidemment d'Élisée Reclus, et vous en doutez bien, à partir de ce film-là. Alors ce film-là a une histoire, il y a eu plusieurs projections, il y a eu et aussi une émission sur Radio Libertaire, Trou Noir, donc vous pouvez aussi la retrouver sur le site de le blog, comme on dit, de Trou Noir sur Radio Libertaire, vous pouvez l'écouter. Il y a eu aussi, il y a 15 jour, eh bien, c'était à Publico, 15 jours, 3 semaines, je pense, eh bien, une projection, vous le savez, ça se passe souvent, c'est à 16h30, hein, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure pour samedi prochain, à 16h30, donc, la projection de ce film-là, où il y avait, beaucoup de monde était venu pour voir ce film, et puis on a eu une discussion avec le réalisateur, l'auteur du film, après la projection. Alors, Nicolas Eprendre, eh bien, on va aborder. Alors, moi, je souhaitais aussi, ben, on verra pour peut-être une illustration, une partie musicale pour le film, parler de ce film. Alors aussi, peut-être le dire toi-même, si tu veux. Donc, à partir de demain, la projection qui va se passer à Saint-Denis, dans le cadre de l'Université populaire de Saint-Denis. Et puis, on va après, puisque c'est mieux, évidemment, inviter les autres auditeurs, allez voir ce film. La possibilité aussi, vous l'avez, il y a un DVD qui est sorti sur le film, donc vous pouvez aussi vous procurer, en particulier au 145 rue Amelot, à Publico, Paris 11e. Alors ça, c'est tout ça, c'est autour d'Élisée Reclus. Alors la question, je vais te poser la première question, c'est tout le choix, hein, pour toi, Élisée Reclus. D'abord ce choix sur ce géographe, anarchiste géographe, aussi l'importance qu'il peut avoir, peut-être la méconnaissance que l'on a actuellement de Élisée Reclus, en tout cas pas pour les anarchistes, hein, pas pour le milieu libertaire, mais pour beaucoup de gens, puisqu'il a été ostracisé avec sa, évidemment, participation à la Commune de Paris, hein, on le rappelle aux auditeurs, donc en 1871, et ils le savent, la Commune de Paris, donc ostracisé, on l'a mis un peu, et même beaucoup, sur la touche, et donc anarchiste, géographe, comment s'effectue la rencontre avec ce personnage que l'on dit hors du commun. Voilà.
Bonjour. Élisée Reclus, je dois avouer que quand j'ai eu l'idée de démarrer ce film, je connaissais pas grand-chose d'Élisée Reclus, en fait. Simplement quelques lectures, et puis donc Histoire d'un ruisseau, Histoire d'une montagne, qui sont les l'accès le plus commun à son œuvre pour beaucoup de gens, et puis aussi la lecture des notices biographiques qu'il y a au dos des livres, et je dois avouer que d'entrée le personnage m'avait plu, même en fonction du peu que racontaient ces notices biographiques, j'ai eu la sensation d'un type droit qui a la liberté pour mot d'ordre constant et qui va suivre son chemin sans en dévier. Et donc la force de caractère qui semblait émaner de ce bonhomme-là m'a intéressé. Et puis c'est vrai que son parcours n'est pas banal. Il y a une part de romanesque dans ce parcours. Je m'étais dit, il faudrait en faire un film. Et c'est vrai qu'il y a un moment, on m'a proposé, le producteur qui est le producteur du film, Antoine Martin, m'a proposé de participer à une collection de films. C'est une collection de portraits qui s'appelle À Contre-Courant, et dont l'intitulé, c'était « Portrait de personnalités méconnues ou oubliées ». Ça cadrait pas mal. Et à partir de là, je suis parti aussi à la découverte d'Élisée Reclus, d'une manière plus approfondie.
Alors, on va le dire tout de suite, dans le film, bon, le film, il y a plusieurs intervenants. Alors, en particulier, donc, il y a un ouvrage qui est sorti sur Élisée Reclus, sur sa biographie, et donc c'est Hélène Sarrazin qui intervient donc dans le film. Alors on voit Hélène Sarrazin, on voit d'autres personnes comme Kenneth White, et peut-être on insistera un petit peu plus sur Kenneth White. Enfin, moi j'avais déjà dit aux auditeurs de cette émission qu'on l'avait rencontré, je l'ai rencontré, et il était évidemment d'accord pour participer à une émission sur Radio Libertaire, hein, puisque il m'a rappelé qu'il avait participé au début des années 80 et l'émission donc sur Radio Libertaire à l'époque où les studios se trouvaient du côté de Montmartre. Alors pourquoi Kenneth White? Eh bien c'est aussi on pourrait dire un philosophe anarchiste, il se dit anarchiste, et géographe en particulier. Et alors, la particularité qu'il a, on va peut-être l'évoquer, puisqu'on évoque aussi pour Élisée Reclus, le concept de cette géographie, et qu'on parle pour Élisée Reclus de géopolitique, eh bien, pour Kenneth White, on parle de géopoétique, hein, il y tient, et donc il y a un institut de géopoétique, enfin c'est un peu ronflant peut-être un peu le mot institut, mais il veut dire, enfin faut le débarrasser et peut-être du sens qu'il a de moins bien dans les nombreux instituts évidemment gonflants qui sont, et celui-là c'est tout le contraire, puisque c'est justement autour de la géographie, mais autour de la poésie. Alors, par rapport à cette idée-là, quelle était la particularité? Alors, je dis par rapport à Kenneth White, c'est que tu as été chez lui, donc on voit dans le film, c'est filmé, et il a les ouvrages comme de géographie universelle, hein, nouvelle géographie universelle, je crois, en 19 ou
19 volumes.
20 volumes. Donc, et chez lui, il en a d'autres ouvrages. Il a énormément de.
Il a à peu près l'intégrale des œuvres de.
Alors, et juste, je voulais dire ça. Donc, dans un ouvrage que tu as lu, hein, que les affinités extrêmes, c'est-à-dire les personnes qui l'ont particulièrement impressionné. Alors, il cite donc différents portraits dans cet ouvrage, je les citerai tout à l'heure, et il commence son ouvrage justement par Élisée Reclus. Alors Élisée Reclus, il dit l'ouverture au monde, et l'ouverture au monde pour lui c'était une révélation ou peut-être une correspondance par le fait de dire quand j'ai besoin de respirer, hein, je vais ouvrir justement cette géographie universelle.
Absolument. Oui. C'est-à-dire que le souhait de demander à Kenneth White de participer à ce film, ça a été un peu une intuition. Je souhaitais qu'il y ait un écrivain qui parle de reclus comme écrivain, parce que la force et l'importance littéraire du travail de reclus est réelle. Je voulais que ça soit mis en exergue dans le film. Et j'avais le sentiment qu'entre Kenneth White, poète, voyageur, conteur, il y avait sûrement des connivences et des liens avec reclus. Je me disais qu'il sans doute pouvait y avoir des choses entre eux. Et puis il s'est trouvé en cours de route que quand j'en ai parlé à Kenneth White et que je me suis un peu plus renseigné sur divers aspects de son travail, que effectivement il connaissait très bien reclus, et que de fil en aiguille, d'un livre après l'autre, il avait acquis à peu près l'intégralité des œuvres de reclus, et donc que c'est devenu, au fil de son compagnonnage avec reclus, c'est devenu quelqu'un d'une référence importante pour lui. Au point qu'il en fait un des inspirateurs de ce que Kenneth White a appelé la géopoétique. Oui. Et donc effectivement dans ce livre que vous citez, les affinités, oui. Kenneth White commence par reclus. Donc qui serait un peu un des pères des.
Oui, alors il est en bonne compagnie. Alors il est en bonne compagnie dans ce livre. Je voulais le citer. Donc les auditeurs, c'est Kenneth White, Affinité extrême, ça a été été publié chez Albin Michel il y a quelques années. Et alors, on le recite, l'ouverture du monde, il ouvre comme ça cet ouvrage. Arthur Rimbaud, il parle de la désertion absolue. Victor Ségalène, l'équipe exotique. Saint-Jean Perse, la grande dérive. André Breton, puisque je sais qu'il l'a rencontré. Le champ magnétique. Louis-Ferdinand Céline, la nuit scabreuse, à voir. Henri Michaud, la transgression tranquille. Et Charles-Albert Singria, l'esprit erratique, on connaît moins, peut-être plus difficile comme auteur, qui est en même temps d'origine suisse. Ça, on verra par rapport à l'importance de des lieux, des lieux, comment ces lieux peuvent imprégner, peuvent illuminer aussi les personnes. Joseph Delteil, la complétude phénoménale. Et Émile Cioran, la vacuité cosmogonique. Et je veux dire simplement aux éditeurs qu'il a rencontré, Cioran. Alors, pour Élisée Reclus, peut-être revenir rapidement, si on peut faire un peu sa biographie, l'importance qu'il a, lui, sa naissance, mais après, c'est la période où il voyage et comment ça détermine l'ouverture au monde. Et aussi, c'est Kadesoy qui le dit, de sortir évidemment des lieux de naissance, de s'ouvrir sur les autres et puis sur évidemment d'autres continents ou d'autres pays, l'importance que ça a. Et pour Élisée Reclus, ça commence par quel pays? L'Irlande ou la...
Non, ça va commencer par l'Allemagne en fait.
Oui.
Puisque très tôt, donc il naît dans une famille protestante en 1830. Et leur père a à cœur d'envoyer ses deux fils aînés, qu'ils destinent plus ou moins à devenir pasteurs eux-mêmes, le père étant pasteur, dans un très bon collège protestant où ils recevraient un enseignement adéquat et digne de ça, sachant que le protestantisme a quand même eu... est moins établi en France qu'en Allemagne, donc il y aurait selon lui pas les conditions requises pour un bon enseignement. Donc en fait, je crois à l'âge de 13 ans, il va rejoindre son frère Élie qui est son aîné qui est là-bas, et donc il va déjà passer un an dans un collège protestant en Allemagne. C'est déjà un voyage pas banal, donc en 1843, de traverser toute la France dans des conditions qu'on a du mal à imaginer maintenant. Donc il y a plus ou moins du chemin de fer, mais pas forcément
ça,
pour partout.
Ça, on a du mal à faire de resituer à l'époque.
Voilà. Et donc de se retrouver dans un collège où il décrit une certaine hostilité de ses camarades, à savoir que lui, on n'est pas très loin des guerres napoléoniennes, donc il est français et il se trouve confronté à des camarades allemands, anglais, de différents pays qui ont une certaine dent contre les Français. Et puis c'est aussi le lieu où il va apprendre l'allemand, il va apprendre l'anglais, à communiquer dans des langues étrangères et à fonctionner avec des gens qui ont des cultures différentes. Et ça va être un de ses premiers, de ses premières ouvertures sur le monde. Il retournera toujours pour ses études en Allemagne, dans ce même collège à Neuwied, et puis ensuite à Berlin, où il va suivre les cours de celui qui sera un de ses maîtres en géographie, qui s'appelle Karl von Ritter. Après vont commencer les grands voyages initiatiques, puisque de retour en France, Reclus et Élisée, les deux frères, s'opposent au coup d'État de Bonaparte qui va devenir Napoléon III. Et donc ils se repèrent évidemment, et ils se trouvent obligés de fuir la France assez rapidement. Et donc ils vont d'abord aller à Londres, puis en Irlande. Et assez vite, Élisée, qui se trouve pas vraiment sa place, a le goût des grands espaces. Et je crois qu'il a l'envie d'aller découvrir le continent américain.
Oui, alors on en parlera justement de l'importance de son séjour aux États-Unis, parce que on l'avait rappelé, l'esclavagisme, la pratique là-bas, ça l'a chamboulé, je pense, ça l'a vraiment impressionné par rapport à ça. Enfin, c'est ce qui est dit, il l'a exprimé. Par rapport à la situation qui a été faite plus aux Noirs, les conditions d'esclavage, et puis aussi, peut-être on reviendra, le fait à Chicago, Et là, je t'avais dit, la dernière fois, qu'à Chicago, il a fait un tour aux abattoirs de Chicago. Absolument. Donc ça, il faut le dire aussi, c'était avant. Il est, pour les auditeurs, fixé un peu sa naissance et sa mort. Sa mort, c'est en 1905.
1905, hein. Absolument.
Donc il est à Chicago à peu près
c'est, ça doit être 1853.
Oui, c'est pour ça, pour essayer de voir. Ce qui fait que les conditions aussi des abattoirs qui l'ont particulièrement impressionné, c'est qu'il en reviendra. Il sera, on dit, je ne sais pas si c'est la formule, au-delà de végétarien, légumiste.
Légumiste, oui. Alors
à tout ça, alors donc, ouais, qu'est-ce que je mange que
des légumes. Disons, pour resituer le contexte, c'est qu'effectivement, ouais. depuis l'Angleterre, il part de Liverpool et il se retrouve, donc il prend un bateau qui l'emmène à la Nouvelle-Orléans. Donc là, il a des premiers mois un peu difficiles. Et puis il fait un peu le docker, il fait un peu divers métiers comme ça. Après, comme c'est un lettré, que c'est quelqu'un d'éduqué, il trouve ce qui sera souvent son moyen de subsistance. Il trouve à travailler dans une famille dans laquelle il va, une famille de planteurs, dans laquelle il va donner des cours aux enfants.
Oui.
À l'occasion de certains moments de liberté, il va effectivement entreprendre un grand voyage qui va le faire remonter le Mississippi jusque vers Chicago. Et là, effectivement, il va faire la visite des abattoirs de Chicago. On sait aujourd'hui que les abattoirs, c'est pas des choses très réjouissantes. On peut imaginer que il y a un peu plus de 100 ans, ça devait pas être brillant non plus. Mm. Et donc, il ressort franchement horrifié de ce qu'il a vu là. Mm. Et déjà, que c'était quelqu'un de, comment dire, pas très porté sur l'alimentation carnée. Je crois qu'à partir de ce moment-là, il a décidé de ne plus jamais manger de viande. Mmh. Alors effectivement, vers la fin de sa vie, je crois qu'il évolue vers quelque chose d'un peu plus radical au point de vue alimentation, dit légumiste. Bon, voilà, je sais pas avec certitude, mais...
Mais là aussi, c'était un peu un clin d'œil pour s'amuser un peu. Alors, je voulais, par rapport au film, alors on voit au début du film le fameux texte d'Élisée Reclus pour le vote, pour la votation. Hein, voter, il s'est abdiqué. Donc il y a une lecture dans la rue. Ça, t'as souhaité faire ça justement, que ça se passe dans la rue, quelqu'un qui lit ce texte et puis d'autres gens qui sont là viennent un petit peu écouter, hein, par rapport ou réagissent par rapport à ça. Et donc c'est vrai que cet aspect-là d'Élisée Reclus voter, s'est abdiqué. Alors pour s'amuser un peu, j'avais pensé que peut-être le fait que de s'appeler Élisée Reclus, et peut-être qu'à l'école, je ne sais pas, Élisée Reclus, à force, il s'est dit, je ne veux pas être élu, je ne veux pas représenter la population, je ne veux pas des électeurs, je ne sais pas si ça l'a influencé, hein, ça, par rapport à son nom, mais sur cette partie qui est très, à l'époque, hein, déjà, alors, il y a eu, aussi, peut-être, on passera tout à l'heure aux d'autres. Il y a beaucoup de textes. Hein. Il y avait Libertad, donc aussi que tu connais. Lui qui a été au-delà, l'électeur, rendant l'électeur responsable, puisqu'il dit l'électeur, c'est un criminel. Mmh. Et puis peut-être qu'on passera, Gaston Couté, hein, puisque ça correspond un peu aux époques, le fameux texte Les électeurs, interprété par Bernard Melien sur justement le fait de refuser la vote. Alors, pourquoi, par rapport à lui, comment ça se passe par rapport à ça, si tu veux, sa conscience, puisque tu as insisté quand même, puisque ça commence par ça.
Hein? Alors, déjà, effectivement, ça commence par ça. Il y avait le souci d'incarner Reclus. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai souhaité faire, c'était pas faire un beau film à la mémoire d'un personnage du passé. Ce qui m'intéressait, c'est que ce personnage, il nous parlait énormément. Il y avait énormément de choses dans ses réflexions, dans ce qu'il a pu vivre, qui me semblaient très actuelles et qui trouvaient un écho dans nos préoccupations à nous. Notamment, l'année passée, 2012, on était en année électorale. Et ce texte, oui, qui est quand même un des plus connus de Reclus, on le trouve sur beaucoup de blogs et tout ça, tout d'un coup prenait un écho assez évident. Et donc, c'est de plus un texte C'est un texte que Reclus a écrit à la demande d'un journal anarchiste de l'époque. Mais c'est aussi un texte qui a été publié dans un format à l'intérieur du journal qui pouvait être affiché. Donc c'est un texte qui a été affiché, qui a été placardé sur les murs. Et donc pour moi c'était important de le qu'il soit, ça me paraissait évident qu'il soit énoncé dans la rue. En écho à ce qui, aux réflexions et aux débats qui pouvaient se produire ou ne pas se produire l'année passée. Et donc c'est pour ça qu'on a, j'ai demandé au comédien Carlo Brandt de.
Oui, alors donc il intervient dedans sur plusieurs textes, voilà, lui, voilà. Oui, exactement. Voilà.
Et donc qui incarne Reclus.
Ouais.
Et c'est lui qui, en voix off, lit les textes de Reclus tout au long du film. Après, sur les positions de Reclus ou des anarchistes par rapport au vote, faut bien voir que, finalement, il y a une évolution. Ça paraît assez évident aujourd'hui que un anarchiste ne peut pas voter. Voilà, que c'est un truc.
Ça paraît évident.
C'est presque essentiel à la doctrine, à la philosophie.
Ouais.
Il se trouve que Proudhon, par exemple, a tenté de se présenter à une élection.
Ouais.
Il y a renoncé assez vite parce qu'il s'est aperçu que ça pouvait pas fonctionner, qu'on pouvait rien attendre de tout ça. Reclus lui-même en 1870, si je dis pas de bêtises, tente de se présenter à une élection dans sa région d'origine, du côté de Sainte-Foy. Je crois qu'il arrive trop tard pour que ça puisse se faire. Mais voilà, il tente la démarche. C'est vraiment le passage de la commune, le tournant de la commune, qui provoque une radicalisation de tout un tas de gens, dont Reclus qui
oui, des légations
pouvaient penser qu'un réformisme pouvait peut-être produire des choses.
Ouais.
Et à partir de la commune, il y a la conviction qu'on ne peut pas transiger avec ce système qui n'a de démocratie que le nom, surtout à l'époque. Ouais. Sur le vote toujours. Ça ne veut pas dire évidemment que les anarchistes ne votent pas. Je pense qu'ils votent énormément, puisque quand même un des principes, c'est la participation de chacun et c'est le
c'est ça. Non, mais c'est-à-dire voilà. Alors là aussi, tu dis donc agir au lieu d'élire, hein, c'est ça un peu. Et mais ce qui est remarquable, je te parlais tout à l'heure de son côté de Libertad, et puis d'Élisée Reclus, ce fameux texte, c'est remarquable d'avoir eu cette analyse-là à l'époque, parce que on pourrait parler de visionnaire, et donc de voir que 100 ans après, si on met l'histoire, et si on regarde tout ce qui s'est passé, justement à propos du vote et de la votation, on pourrait dire, comme le texte de Gaston Couté, je n'y comprends rien, les électeurs, mais qu'est-ce qu'ils ont dans le ciboulot, les électeurs? Parce que là, eux, ils n'avaient pas un siècle devant eux, hein, de transformation, finalement, de confiscation du pouvoir, et puis de voir que simplement, les gens, une fois qu'ils ont voté, et ça se reproduit, et ça recommence à chaque fois. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est toujours d'actualité, t'as bien fait peut-être en 2012, puisqu'on recommence, on est en votation perpétuelle, on pourrait dire, c'est le mouvement perpétuel, les municipales qui se profilent après les européennes. Après, ils sont déjà installés sur les nouvelles présidentielles, donc on peut dire, quand des gens disent les électeurs n'agissent pas, moi je suis pas d'accord, ils font que ça.
On leur demande beaucoup, mais
en permanence, ils ne font rien. En permanence, c'est une illusion évidemment qui dure et qui est recommandée. On continue, donc c'est vrai que l'insistance, le début du film sur cette partie, je pense, est importante. Et évidemment, toi, tu ne vas pas être déçu de voir quand on voit, comme on dit autour de nous, le résultat et le hollandisme installé, comme quoi évidemment les électeurs se sont fait encore rouler, cocufier et rouler dans la farine. Et que ce qui peut être demandé, évidemment, le remplacement, c'est la responsabilité politique. C'est l'action personnelle et pas cette délégation
le mandat.
Qui est sans contrôle. Hein, oui, parce qu'on a expliqué après le mandat impératif, enfin des choses comme ça qui pourraient exister, révocables, enfin tout ça, et qui n'existent pas évidemment dans ce mode de constitution. Donc c'est pas le fait d'un vote non absolu, c'est-à-dire si on délègue et si on contrôle et si on est capable justement de voir ce qui se passe et de pouvoir intervenir, là les choses sont différentes. On se doute bien que pour tout un tas de choses, il faut des délégués. Ouais. Alors il y a une confusion quelquefois qui est installée, mais en tout cas le vote tel qu'il nous est proposé ici ou ailleurs, est une, évidemment une farce électorale.
Alors on demande un blanc-seing, en fait.
Alors, en plus. Et ce qu'il y a de beaucoup plus grave, c'est que ça légitimise les actions de ceux qui l'ont, qui, en notre nom, peuvent commettre n'importe quoi, et on le voit par rapport à ça, en disant, ben moi, j'ai la légitimité, comme Hollande, ben je peux rester, je peux tout faire, hein, même. Je peux faire les guerres, je peux aller, comme là, aller en Centrafrique, envoyer, encore une fois... Et demander à personne. Enfin bon, je trouvais que c'était important donc de le souligner. Alors les gens, les personnes qui interviennent, parce que la partie, c'est ce que l'on disait par rapport aux géographes. Alors il y a aussi dedans Federico Ferretti qui intervient, hein, et lui aussi. Alors il y a plusieurs publications, mais c'est en italien, ça n'a pas été traduit.
Si, il a plusieurs. Plusieurs textes en français. Donc Federico Ferretti, donc c'est un géographe italien, géographe français aussi, puisqu'il est parfaitement bilingue, un peu la mère de reclus, il parle un peu toutes les langues européennes.
Ah ouais.
C'est sans doute une des personnes qui connaît le mieux l'œuvre, le travail de reclus aujourd'hui. Il poursuit un travail d'investigation et de recherche de documents, de correspondances. Je sais qu'il a retrouvé des documents, des correspondances dans des archives russes à Moscou. Il y a un an ou deux. Donc il y a toujours tout un tas de documents qu'il explore et qu'il met en œuvre. Un des textes qu'il a publié, je crois que ça fait tout juste un an. Ce sont justement des correspondances entre Lise Reclus et son éditeur, l'éditeur Hetzel, pour Histoire d'un ruisseau, Histoire d'une montagne. Ce qui est assez étonnant, c'est que cette correspondance reprend alors que Reclus est emprisonné après la Commune. Et donc avec l'éditeur, il discute un peu du contrat, de pourquoi, comment, ainsi de suite. Donc
Recommander les correspondances, hein, d'Élisée Reclus.
Oui, tout à fait. Voilà, aux éditions À la frontière.
Ouais, d'accord.
Élisée Reclus, lettre de prison et d'exil, commentée par Federico Ferretti.
Voilà. Et puis dedans, tu évoques l'histoire du ruisseau,
ouais.
Hein, c'est ça, et puis
l'histoire d'une montagne.
Ouais. Ça aussi à recommander, hein, par rapport. Alors, si tu veux une partie pour illustrer un petit peu ce disque, donc Natacha. C'est ça, Une nuit de prince.
La musique du film donc a été composée par quelqu'un qui s'appelle Olivier Caour. Il y a une chanson qui est un texte anonyme, une chanson de la Commune, donc qu'on a retrouvée, qui a été mise en musique par Olivier Caour et interprétée par Natacha Fialkowski. Donc deux personnes que je connais bien et qui travaillent régulièrement ensemble. Et là, on va passer un extrait d'une de leurs collaborations avec un groupe qui s'appelle Nuit de Prince, et ça s'appelle Zastalom.
Voilà, pour les auditeurs, donc tout de suite sur Radio Libertaire, l'émission Chronique Hebdo. Je vous rappelle le numéro du studio, 01 43 71 89 40.
L'hiver est là, le temps court, la vie galope, les amours, ainsi eux sans bruit. Je prends mes distances. Loin de l'argent, son odeur. Loin de la ville, ses humeurs. Je change de cadence. Un billet pour le train. Un appel, une musique, un prélude. Au rythme lancinant. Et je glisse vers le sud. Les champs, les arbres nus, les étangs, les villages de pierre. Derrière la vitre, les gens, les rêves et les tourments vivent dans la lumière. Aquarelle, paisible, transparence des prolonge, s'élance enfin puis s'estompe. La lune vagabonde, le vent frémit sans un bruit, l'hiver s'endort dans la nuit. Et je rêve aussi, tout là-bas sur le quai, l'aube esquisse des pâleurs aux étangs. Tout là-bas il paraît que le temps prend du temps pour attendre.
Ça c'est un nom, un salut, moué d'un
Radio Libertaire, Chronique Hebdo, ben reprends, Chronique Hebdo, alors Nicolas et Prendre, on a entendu, tu veux rappeler hein, pour les auditeurs, donc l'album Katacha et Nuit de Prince, et c'était...
Zastalom.
Voilà, hein, cette chanson. Donc là aussi, le rapport avec le film, c'est...
Donc ce sont eux qui ont, Olivier Cahour a composé la musique du film,
oui.
Et Natacha Fialkowski chante une des chansons qui est dans le, la chanson qui est dans le film.
Alors juste, Serge, émission Trou Noir a appelé là, alors évidemment il te fait, il te souhaite, puisque j'avais dit qu'il avait, vous aviez participé à une émission hein, il y a quelques mois, hein, donc émission Trou Noir, vous pouvez toujours la trouver sur le blog, et puis il me disait que, bon j'ai pas le, le calendrier, mais si j'ai bien retenu, le 18 novembre, ils avaient évoqué, ils avaient parlé de l'ouvrage de Federico Ferretti sur les lettres de prison et d'exil d'Élysée Reclus. Hein, voilà. Alors, l'impossibilité, ben, c'est ce que je te disais, c'est pas simplement Radio Libertaire sur l'ensemble de l'Île-de-France, on le rappelle le 89.4, mais c'est aussi sur Internet. Internet, on peut l'écouter, donc en province et un peu partout sur la planète, à condition d'être équipé de cet ordinateur. Et puis, eh bien, là aussi, je voulais le signaler, les émissions sont potes, nous on dit potes, mais ils disent pod, castés sur Vous allez Radio Libertaire pendant un mois. Il reste les émissions et vous pouvez donc les réécouter à volonté ou ne pas les écouter. Vous êtes entièrement libre. Alors justement, puisque vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, enfin on essaie, comme on a dit ce matin, que la liberté était relative, évidemment, et très relative et diminuée dans un pays de plus en plus, donc, qui a les apparences, enfin, pseudo-démocratiques et qui est de plus en plus contraignant, puisque Monsieur Delanoë, je vous l'avais dit au début de cette émission, était très emballé par l'impact de la vidéosurveillance pour la fameuse affaire de la semaine dernière, hein, l'arrestation qui n'a servi strictement à rien. Il disait que quelques restrictions de liberté peuvent être utiles. Jusqu'où iront-ils? Voilà. Alors venant évidemment entre guillemets d'un maire socialiste, voyez les avatars, comme je dis souvent, des socialistes, ce que ça a pu être devenu, mais de ce que c'est devenu dans cette société. Alors voilà, alors on continue justement puisqu'on parlait de liberté hein, pour Élisée Reclus. Alors là aussi, il y a la présentation du géographe anarchiste ou anarcho-géographe. Chacun essaie, non mais peut-être après par rapport, et aussi l'importance à leur revenir donc de ce géographe, de son travail phénoménal. Et puis j'avais dit au début de cette émission qu'il a été ostracisé après la commune de Paris. Donc là aussi, dans l'école de la République, est-ce qu'on parle d'Élisée Reclus dans les livres scolaires? Ben non.
Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Pour ce qui est d'Élisée Reclus aujourd'hui, il est revenu, il fait partie des personnes qu'on étudie à l'université. Donc ça, on en parle. Tous les gens qui vont en cours de géographie à l'université entendent parler de Reclus aujourd'hui, ce qui n'a pas été le cas pendant très très longtemps. Pour revenir sur le parcours de, enfin disons pour dire pourquoi Reclus oublié, faut savoir que quand Reclus décède en 1905, c'est une personnalité, c'est quelqu'un là, au moment de son décès qui fait la une de certains journaux. Donc c'est pas le cas de tous les scientifiques aujourd'hui. En revanche, il va être son travail fait autorité. Il est reconnu par tous, même par ceux qui sont pas très proches de lui. En revanche, il va être oublié assez rapidement. Pourquoi est-ce qu'il va être oublié ? D'une part, Élisée Reclus n'a pas eu d'enseignement universitaire, pas du tout en France. Un tout petit peu en Belgique, là où il va finir passer ses 10 dernières années, et en tout cas il n'a pas formé de disciples ou d'école, donc de ce point de vue personne ne va prendre sa succession. En revanche, en France il y a une école de géographie concurrente, on va dire, qui est menée par quelqu'un qui est à peu près contemporain de Reclus, qui s'appelle Vidal de la Blache. Vidal de la Blache va faire école puisqu'il enseigne, il enseigne à l'université en France et à Paris, et donc lui va faire des disciples. Assez vite, quand Reclus décède, au moment de la parution de son dernier ouvrage qui s'appelle L'homme et la terre, donc en 6 volumes. Qui est l'ouvrage sans doute le plus moderne, le plus novateur en termes d'apport à la géographie. Assez vite, les adversaires de Reclus vont l'évacuer en disant que finalement c'est pas tellement de la géographie, il y a aussi de l'histoire, de la sociologie, des choses comme ça. Donc c'est pas de la géographie, donc on va pas en parler. Et assez vite, le travail de Reclus va disparaître du travail de géographie qui est fait en France, ce qui ne sera pas le cas ailleurs. C'est à savoir qu'aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, le travail de Reclus continue à être connu et à être discuté. Et ça aussi dans les pays de langue espagnole, on parle beaucoup de Reclus et c'est une référence qui reste tout au long du siècle. En France, c'est seulement, on va dire, à la fin des années 60, début des années 70, qu'un certain nombre de géographes, disons, cherchent des pistes nouvelles, notamment la revue Hérodote, qui va, et justement, va se tourner vers Reclus pour découvrir un autre travail et une autre approche de la géographie. Donc ça va être le début de donc la revue Hérodote, qui est notamment menée par Béatrice Gibelin et Yves Lacoste, va participer fortement à la redécouverte de Reclus, et on va commencer à avoir des rééditions de textes. Dans un petit peu plus tard, on peut parler justement, il y a Hélène Sarrazin qui participe au film. La biographie de Reclus qu'elle écrit, qui pour moi reste la meilleure parmi celles qu'il y a eu, elle écrit cette biographie en 86, ce qui est déjà assez loin. Et donc je pense qu'elle participe aussi grandement au travail de redécouverte de Reclus.
Alors, pour dire pour Hélène Sarrazin, pour citer son ouvrage, pas qui est un petit peu le titre que tu as repris là, hein, c'est ça là.
Bah, le titre de l'ouvrage d'Hélène Sarrazin, c'est Élisée Reclus ou la passion du monde. J'ai presque intégralement, en lui demandant, repris son titre, puisque le film est devenu Élisée Reclus, La Passion du Monde.
Alors je trouvais que ce titre aussi, je parlais tout à l'heure au début de cette émission, enfin pour s'amuser un peu avec Élisée Reclus, sur le fait d'élire, et La Passion du Monde, ben, La Passion du Monde, comment on entend le monde, hein, c'est-à-dire ce monde, la planète, la passion de la planète, la passion des pays, les découvertes, et puis les êtres humains qui peuplent cette planète. Alors il y a absolument tout, puisque ça aurait été, je dis le l'extension d'aller voir ailleurs, de se nourrir des autres, de toutes ces cultures, de toutes ces langues exprimées justement par Élisée Reclus, et on retrouve ça, comme j'avais commencé à parler de Kenneth White, hein, on retrouve ça dans la philosophie de Kenneth White, c'est-à-dire que lui, il a aussi de prendre un peu de distance, de prendre un petit peu de s'élever au-dessus de, il parle à un moment par rapport à notre société, donc dans son ouvrage d'un manifeste anti-médiocratie, hein, anti-médiocratie. Et alors, je voulais citer aussi Kenneth White, ce qu'il dit, il reprend, hein, Élisée Reclus, il reprend une partie de son texte. Alors il dit, quand il décrit, je trouve bien, comme un poète penseur planétaire, hein, et là encore une fois, l'intérêt, c'est que je pense que la distance géographique, mais je dirais la distance du temps, n'y est pas. On est, c'est d'actualité. Mmh. Hein, c'est ça aussi, cette notion de passé, de présent et de futur. Donc c'est complètement actuel. Et il dit, vous me dites, écrit-il dans une lettre à un ami, Élisée Reclus, que mon poème n'est pas réalisable, que c'est un rêve. Ou bien nous pouvons réaliser ce rêve pour la société tout entière. Dans ce cas, travaillons avec énergie. Ou bien nous ne pouvons le réaliser que pour un petit nombre. Dans ce cas, travaillons encore. Ça, c'est assez remarquable. Alors, c'est vraiment, je comprends pourquoi Kenneth White, quelquefois par la pesanteur du monde, il va respirer en ouvrant la géographie universelle d'Élisée Reclus. Alors, est-ce qu'on peut les trouver donc physiquement, parce que c'est ça, par rapport à la consultation, c'est aussi voir les lieux où c'est possible d'aller trouver, toucher. Peut-être tu me diras, alors allez voir Kenneth White. Alors je voulais préciser qu'il habite pas le lieu d'habitation, le lieu où il se trouve actuellement. Et c'est pas près de Saint-Brieuc, mais c'est près de Lannion.
C'est près de Saint-Brieuc, ouais, c'est pas très loin de Saint-Brieuc. Ouais.
Non, mais c'est près de Lannion. La proximité, c'est, je vais te dire, c'est à Trébordin. Hein. Voilà, c'est à Trébordin. Je connais bien le lieu. Et donc, par rapport à Lannion, parce que les gens connaissent Lannion, hein, dans les côtes d'Armor, ouais. Et donc la distance, donc, mais t'as raison, hein, par rapport à Saint-Brieuc, c'est pas très loin, ça fait autour de 70-80 kilomètres, ou quelquefois, Kenneth White se rend pour soit à la bibliothèque ou pour parler de ses livres ou pour parler de la littérature, voilà, et de la poésie. Alors ça c'était pour le film. Alors pour le film, rappelez quand même demain le rendez-vous à Saint-Denis.
Alors demain, donc il y a une projection du film à Saint-Denis dans les locaux de la MAP de Saint-Denis. Ça sera la projection sera à 19h30 et ça se trouve place Paul Langevin à Saint-Denis, métro Saint-Denis-Basilique, et puis après.
À partir de 19h30.
Hein, c'est ça. Et en présence de Philippe Pelletier, qui est présent dans le film et qui viendra débattre en ma compagnie de ce film.
Oui, alors ça c'est donc. Alors l'autre aussi, il faut dire, il y a un DVD. Ouais, ce DVD, donc le film, hein, La Passion du Monde, donc de Nicolas, de ton film, et que vous pouvez trouver. À Publico, mais peut-être ailleurs, absolument. Non 145 Amelon.
Il était chez Quilombo.
Ah oui, Quilombo, donc voilà, notre librairie qu'on recommande.
Dans
donc,
les bonnes librairies, on peut le trouver.
Aux auditeurs de la région parisienne. Alors, les ouvrages aussi, on a les ouvrages ouvrages qu'on pourrait conseiller d'Élisée Reclus. On l'a dit tout à l'heure, histoire d'un...
Alors après c'est très vaste, oui. Donc effectivement parmi les choses les plus accessibles, histoire d'un ruisseau, histoire d'une montagne sont des choses très très accessibles. La géographie c'est un peu plus difficile, c'est des ouvrages très très importants, donc si on envisage de commencer à la page 1 et d'aller à la fin du dernier tome, du 19e tome de la géographie universelle, c'est un peu impressionnant.
Ouais.
En revanche, il y a beaucoup de rééditions de textes.
Oui.
De textes. Donc, par exemple, je pourrais citer. Par exemple, je pourrais citer réédité aussi à l'initiative de Federico Ferretti d'une édition qui s'appelle Héros Limite. Et c'est en Suisse, je crois qu'ils sont une édition qui est à Genève. Il y a réédition de un certain nombre de textes qui s'appelle Écrits sociaux.
Mmh.
Voilà, qui est tout à fait intéressant. Il y a des textes qui avaient été réunis aussi par un très bon spécialiste de reclus aussi qui s'appelle Joël Cornuau. Il avait réuni des textes sous le titre Élisée reclus, du sentiment de la nature dans les sociétés modernes et autres textes. Donc il y a notamment un texte où reclus parle du végétarisme, différents textes sur son rapport à la nature, des choses comme ça. Ça sont des textes où on trouve des choses d'une très grande actualité et qui sont, disons, plus moins impressionnant à affronter que la géographie. Son dernier grand ouvrage de géographie qui s'appelle L'homme et la terre est un ouvrage passionnant aussi. Parce que c'est vraiment un ouvrage où il va essayer de comprendre le milieu dans lequel on vit, en apportant plein de dimensions, donc celle de l'histoire, du temps long, de la sociologie, de l'anthropologie à certains égards, et donc c'est vraiment assez passionnant.
Et là, je voulais justement, Nicolas, lire ça, déclaration d'Élisée Reclus par rapport à l'actualité. Là où le sol s'est enlaidi, il écrit ça dans un texte sur la ville, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s'éteignent et les esprits s'appauvrissent. Alors ça, c'est quand même
aussi des paroles assez magnifiques, et on n'a pas beaucoup de mal, sachant qu'il s'agit bien d'un texte sur la ville, on n'a pas beaucoup de mal à avoir des images se présenter devant nous quand on entend ce...
Alors, le personnage, évidemment, l'importance, là, on avait dit... Hein, en une heure, c'était difficile, mais donc c'est surtout d'aller voir le film et puis et pris les ouvrages que l'on a cités. Je voulais juste rappeler rapidement, puisque ça a été l'affaire du mariage pour tous, que Élisée Reclus était favorable à l'union libre et il a eu trois compagnes et il a essayé trois types de contrats. Il y a eu des contrats, un contrat civil, ouais. Mais il y a eu justement une union libre. Donc là aussi, on dit que c'est une possibilité puisque on a entendu le mariage pour tous. La franc-maçonnerie, simplement, j'avais vu qu'il y a été, il se sentait un peu à l'étroit. Il n'est pas resté très longtemps.
Oui, on le rappelle souvent, mais je pense qu'il a été dans une loge pendant plus ou moins un an. Et puis je pense pas que.
Et apparemment, on nous dit que sa soif de liberté, d'indépendance des deux frères, parce que son frère y était, ne pouvait se satisfaire des rites président aux réunions des loges. Hein, voilà. Et alors le naturisme aussi, développé, tu sais ça.
Alors, il n'est pas hostile. Je ne pense pas qu'il l'a pas pratiqué lui-même.
Mais là aussi, hein, il peut être justement sympathisant. Je ne dis pas forcément pratiquant, mais au moins d'en parler. Et encore une fois, ça c'est par rapport à comment être à l'intérieur de la nature, hein, ce bien contact sûr. Avec la nature. Alors voilà ce qu'on pouvait dire rapidement pour ces points forts peut-être de la personne. Personnalité et puis évidemment l'anarchie d'Élisée Reclus ce matin dans l'émission Chronique Hebdo. Hein, je vous rappelle, vous êtes sur la radio libertaire. Alors, Nicolas,
juste rappeler une autre projection. Donc, il y a bien celle de demain soir à Saint-Denis à partir de 19h30, place Paul Langevin. Il y a aussi une autre projection en Normandie. À Louviers, samedi 30 à 16h au cinéma Grand Forum à Louviers, dans l'heure. Voilà, je pense que ça aurait une belle projection aussi. Donc vous êtes tous conviés, entrée gratuite. Et puis sinon, dans les parutions récentes, aux éditions Noir et Rouge, qui avaient publié il y a à peine un an maintenant un ouvrage de Ronald Craig sur Élisée Reclus et les États-Unis,
qui
était tout à fait intéressant.
Ouais.
Ils viennent de sortir cette passionnante maison d'édition un texte qui s'appelle Élisée Reclus et nos géographies, textes et prétextes. En fait, c'est un recueil des textes du colloque qui s'est tenu à Lyon en 2005. 2005, à l'occasion du centenaire de la mort d'Élisée Reclus. Et donc, ça regroupe tous les ouvrages, tous les textes des communications qui ont été donnés à cette occasion.
Ok, ben merci, et puis essayez aux auditeurs d'aller voir le film, hein, Nicolas Eprendre, et ben je te dis à une prochaine fois.
À une prochaine fois.
Et puis, restez à l'écoute de Radio Libertaire, tout de suite l'émission de Rimes et de Notes, Marlène et tous ses invités. Salut, à la semaine prochaine.